Agora Côte d'Azur présente Les copains d'abord.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Les copains d'abord sur Agora Côte d'Azur, votre émission mensuelle dédiée à la bonne humeur. Toute l'équipe est très heureuse de reprendre du service, à commencer par David, qui m'a dit tout à l'heure en off, moi j'aime bien la rentrée, à l'instar d'Asen, qui m'indiquait également tout à l'heure, moi aussi j'aime la rentrée, ouais. Sauf que lui ne l'écrivait manifestement pas du tout pareil. Alors vous l'aurez compris, c'est donc le moment pour vous de relâcher vos zygomatiques pour un voyage d'une petite heure sans escale, avec un équipage au service de ses passagers. N'ayez crainte, si on vous fait décoller, on devrait vous faire atterrir. Mais sans plus tarder, laissez-moi vous présenter une nouvelle fois l'équipage qui m'accompagne. Tout petit, il racontait déjà des histoires. Plus tard, c'est aux filles qu'il en a raconté, puis à ses futurs employeurs. Et c'est ainsi que la légende est née. Il n'est peut-être pas le petit-fils Rockefeller comme il le prétendait. Il n'est pas plus astronaute que je ne suis la mère Michel, mais il a du talent. C'est David. Bonsoir David.
Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de l'Italie et des Italiens.
On t'a pas réveillé là, non?
Non, on vient de dire salut, mais c'est pas grave, j'étais à la fin.
J'étais à faire un petit coma.
J'étais pas lutté, en fait.
Salut. Tu lâches.
Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir?
Ah voilà, alors je vais parler de l'Italie et des Italiens, nos cousins transalpins avec lesquels nous tissons des relations d'amour, d'humour et on peut dire d'amour vache également.
Ah, on est bien d'accord là-dessus. Ben écoute, on a hâte de t'écouter. Laura, elle a ou ce je ne sais quoi ou que d'autres n'ont pas et qui nous met dans un drôle d'état. Laura, elle a ce petit supplément d'âme qui lui permet de vous raconter un cold case façon comptine pour enfants et de vous rendre presque beau ce qui ne l'est pas. C'est Laura. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Bah, très bien, très bien.
On te réveille toi aussi ou ça va?
Je dormais avec David.
Alors qu'est-ce que tu nous fais ce soir?
Alors, ce que je vous fais écouter, c'est. C'est j'ai rassemblé, comme d'habitude, les perles du web et des réseaux sociaux que j'ai relevés et qui, à mon sens, vont être plutôt pas mal à entendre.
Eh ben, c'est pareil, on a hâte de t'écouter. C'était un petit peu le but. Merci Laura. Blonde comme les blés, un sourire émail diamant visible depuis la station Mir. Elle avait jusque-là tout misé sur son physique, jusqu'à ce qu'elle réalise que nos émissions n'étaient pas filmées. Eh oui, c'est comme ça, on lui a dit. Hein. Elle nous prouve depuis et de par ses interviews que les blondes aussi ne comptent pas pour des Mirabelles, puisqu'elle est Lorraine. C'est Carole.
Bonsoir
Carole.
Salut, merci pour cette présentation, je suis flattée.
Avec plaisir.
J'adore.
C'est tout toi.
C'est ça l'amitié.
Alors ce soir, qu'est-ce que tu vas nous proposer avec Hassan?
Moi, je propose de continuer à voyager dans ton avion et faire le tour du monde.
Ça sera quand même plus simple pour l'émission.
Ça part un cacahuète ce soir.
Mais oui. Et de vous présenter Emmanuel Frisero, qui est présent ici ce soir et qui est scénariste, producteur et réalisateur. Donc le voyage va continuer avec lui.
Ouais, super, on a hâte de le retrouver tout à l'heure dans son interview. D'une beauté insolente, semblable à celle d'une statue grecque, il est l'homme qui fait pâlir le soleil. Son charme en compétition quasi quotidienne avec son intelligence a déjà été pris en flagrant délit de jalousie face à son sens inné de la drôlerie. Mais assez parlé de moi, comment vas-tu mon très cher Hassan? Eh oui, je suis désolé.
Comment parler après tout ça? J'ai rien à dire. Bonsoir.
Bon, en tout cas, tu devrais normalement, si tout se passe bien, accompagner Carole dans l'interview.
Si tout se passe
exactement.
Bien.
Donc ce soir, on reçoit notre ami Emmanuel Frisero. Et ensuite, on a une chronique tous les deux.
Absolument.
Comme d'habitude.
Absolument.
Le binôme.
Oui, dis-moi.
Mais nous n'avons pas présenté tout le monde.
Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai.
Exactement. Alors, c'est le pilier de la team des copains d'abord, celui qui défend le micro et la chronique. Un homme d'esprit classé par les 20 personnalités radio préférées des Français.
Ah bon?
Celui dont le corps fait rêver, et pas uniquement par ses tatouages. Non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Okay. Tout comme notre chroniqueur David, qui rêve d'avoir ses muscles et ses cheveux. Un trop de tout, et c'est Thierry.
Merci beaucoup.
Thierry, merci Carole.
Alors de mon côté, je vous proposerai un petit peu plus tard une chronique décalée sur la vie de Jésus, les vœux que l'on se souhaite à chaque début d'année, des résolutions que tout le monde prend, mais que personne ne suit très longtemps. C'est maintenant l'heure d'une petite pause musicale avec le plus français des petits Suisses. Celui-ci ne se mange pas. Je veux bien entendu parler de monsieur Stéphane Escher avec son titre Le plus léger au monde, issu de son excellent dernier album Ode. Et nous, on se retrouve juste après avec David et son voyage au bout des mots. À tout de suite.
À tout de suite.
À tout de suite.
ce soir. Vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Oh oui, je veux. Je veux être à nouveau surpris. Je veux être étonné comme le premier des hommes. Je veux me retrouver debout avec des yeux nouveaux au milieu des choses et ne plus rien reconnaître, pas à pas à travers les bois et les prairies et dire oui, c'est bon, plutôt pas mal. Pas mal tout ça. Alors j'ouvre mes bras aussi loin que je peux, car chaque chose c'est un cadeau. C'est juste l'emballage qui fait chier. Et on a beau à essayer, on arrive à peine à enlever ce joli papier. Autant je sais maintenant qu'il y a des gens dans ce monde qui le justifient, qui peuvent nous aider à vivre, qui aiment, aiment comme si c'était la chose la plus légère au monde. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Oui, je veux. Oui, je veux. Je reste éveillé la nuit, je rêve des plus belles mélodies qui flottent dans l'obscurité. Je flotte avec elles, quelque chose en moi veut briller et aller vers le ciel.
Ce soir, dans Les Copains d'abord, David dans Voyage au bout des mots.
Ce soir, nous faisons un voyage en Italie, sans Stendhal ni les cubes. Mais avec Cécile, ma fille. Bien entendu, si j'aimerais tant voir Syracuse, je perds mon latin à Rome où je me la coule douce. Et oui, la Dolce Vita est ancrée dans l'état d'esprit des Italiens. L'Italie, c'est la nourriture. Où dîne où ce soir? On met la nappe. La cuisine italienne est une des meilleures au monde. La pizza 4 saisons de Vivaldi, les sardes qui dînent à l'huile, une tomate mozza avec du basilic Saint-Pierre ou la spécialité de Cuneo, le cunilingus. Vous savez comment on dit dessert en italien?
Non, on veut pas savoir.
Ben, on dit dolce. Et le plus fameux est le Dolce Gabbana qui est à la mode, ce que le tiramisu est au régime. Mais c'est Calabre qui cache la forêt. L'Italie, c'est l'histoire. Il a fallu plus de 1000 ans pour que l'Italie passe de la Rome, ville ouverte, à l'expédition des 1000 de Garibaldi en chemise rouge. En avant-marche, l'Italie est très catholique. On le sait puisque le Christ s'est arrêté à Eboli. Depuis que Molise a été sauvée des eaux, que Venise se noie sous les siennes et que Rome gagne Lazio, on ne sait plus comment se faire bénir. Pendant la guerre, beaucoup d'Italiens étaient des grenouilles de Benito, en chemise noire. C'est bien connu que, comme en Mussolini, on se couche. Vous voulez faire un bain de Saint-Siège? Direction le Vatican, où Claudia, le plus fameux des cardinals, écrit des bulles pour le pape qui, sur son minestrone, fait des volutes de fumée blanche ou noire suivant l'humeur. Depuis les accords de latrine, chaque Italien va aux toilettes en Vespasienne. Viva Verdi. L'Italie, c'est la culture. Un pays où la vie est belle. Si nous nous sommes tant aimés, nous aimons nous taquiner avec nos cousins transalpins. L'écriture italique fut inventée à Pise. Mais certains n'ont que du mépris pour Moravia. De l'Adriatique au désert des Tartares, les Italiens sont comme le baron, un peu perché. Dans la Divine Comédie, le diable s'habille en Prada. Quand Armani porte un caleçon long et qu'il est libre, Max Mara. Le fanfaron se rend du lac Majeur au lac de Côme. Et s'il n'y prend pas garde, finit en bonne campagne avec Florence, Émilie ou Mona Lisa. L'Italie, c'est le foot, le calcio. Les insultes en italien sonnent comme un opéra de Puccini. On les entend d'ailleurs souvent dans les stades, véritable lieu de culte moderne, d'une riva à l'autre de la botte. La vieille dame taquine la Louve romaine, les stades sont des volcans épris de passion. Et la lumière fut Fiat Lux, comme ils disent à Turin. Je jette donc un pavis dans la mare, car on oppose toujours l'Italie du Nord, industrielle, à celle plus pauvre, le Mezzogiorno, où le guépard rugit à Lampedusa. Le nom de la rose signe un parfum de femme qu'on a dans la peau, comme à l'appart. Toujours mieux, en tout cas, qu'une eau de Bologne entêtante. L'Italie, c'est la mame, celle dont les formes généreuses cachent un cœur d'or, toujours à surprotéger le fils. Ce fils qui cherchera dans sa future compagne l'image de sa mère, une femme à la maison qui fasse bien la cuisine, la femme idéale, quoi.
Ah là là.
Je suis désolé. Mais je vois que la Scala s'allume. La scène dévoile un baryton au joli timbre de voix, qui chante un opéra Trieste à mourir.
Oh.
Ils sont venus, ils sont tous là, en Ferrari ou Lamborghini, les papas rasés de près.
Oh.
Les Italiens sont des séducteurs invertébrés. Regardez Berlusconi, manque de peau, il n'est plus que l'ombrie de lui-même. Il faut dire qu'il est mort à Venise. On dit l'Italien charmeur et macho. Et là, certains comme Léonard de Vinci font des scènes à leur épouse, qui inventa le divorce à l'italienne. On dit également que l'Italien parle fort, mais surtout avec les mains. D'ailleurs, les manchots italiens ne parlent qu'à demi-mot. Si certains Italiens sont piémontés, je suis fier, selon certaines sources féminines, d'être bien monté.
Il aime bien la placer, celle-là. Hein.
Ouais, c'est pas mal.
Bien monté, bien rentré. Je me fais
plaisir.
C'est l'autosuggestion. Dans la cité des femmes, j'aoste une jolie brune, Fellini. Mais cela ne m'a pas toujours porté chance, car à cause d'une certaine Juliette, j'ai attrapé la petite Vérone. Mais assez parlé de moi. Assez parlé de moi, je suis sans gêne. Vous en avez plein les pouilles, car je ne parle que de baisser mon panthéon pour exhiber ma péninsule.
Oh, c'est festival ce soir.
Là, il ne dort plus du tout, quoi.
C'est plus calme, c'est Venise, là.
Après ce panégyrique, si l'Office italien du tourisme ne m'offre pas un voyage, il ne me restera plus et reste bien assise, Carole, si tu tiens, qu'à me faire offrir un bon plat de pâtes chez toi, car en Italie, tout finit par du pain, de l'amour et de la fantaisie.
Bravo! Oh, très très jolie chronique, quelle plume et pas que, mon avis apparemment, hein.
Et pas que, ouais.
Merci David pour cette magnifique chronique. Donc sans plus tarder, avant de retrouver un soir un destin avec notre invité, on va s'écouter le groupe The Cure avec l'un de leurs titres mythiques, Friday I'm in Love, et tant pis si on est mardi. À tout de suite.
Ce soir. Vous écoutez Les Copains d'Abord sur Agora Côte d'Azur. dans Les Copains d'abord. Carole et Hassen dans Un soir, un destin.
Rebonsoir, eh ben, autant vous dire que c'est le meilleur moment de l'émission. Eh oui, désolé pour vous, les
copains. C'est ça l'esprit d'équipe.
Ah ouais, vachement.
Et oui, parce qu'on continue toujours à voyager dans ton avion, Thierry.
Oui.
Et donc, c'est le moment d'accueillir notre invité.
J'ai encore du kérosène, hein, ça tombe bien.
Mais oui, parce qu'on va voyager un petit moment. Et nous intéresser au parcours d'Emmanuel Frisero, quelqu'un que je connais très très bien depuis plusieurs années, qui est réalisateur, producteur et qui s'est spécialisé dans les thrillers et les films d'action. Alors, grâce à notre invité du jour, nous allons encore beaucoup voyager et faire le tour du monde. Vous allez comprendre pourquoi. Emmanuel, passionné de cinéma depuis toujours, très petit, il passait déjà son temps à filmer sa famille avec son caméscope, si je ne me trompe pas, et réalise son tout premier film à l'âge de 8 ans, ce qui est déjà exceptionnel. Une trentaine d'années plus tard, cet homme fidèle à ses rêves comme à ses équipes enchaîne les succès et les distinctions. Avec sa série En guerre, il a reçu 5 récompenses. Avec son film La Curée, il a raflé 20 récompenses, dont les meilleurs effets spéciaux et la meilleure réalisation. Avec son moyen métrage, La dernière leçon du parrain, il en reçoit 3 nouvelles. On peut compter à ce jour 30 prix à l'international, dont le prix Las Vegas du meilleur film étranger, ainsi que la Palme d'Or de Las Vegas pour le prix du meilleur court-métrage. Quand même, parcours incroyable. Autant vous dire notre fierté ce soir de le recevoir et de lui permettre de rajouter une ligne à son modeste CV grâce à notre interview chez Agora Côte d'Azur. Bonsoir Emmanuel.
Et bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Merci
bonsoir,
beaucoup.
Bonsoir. L'interview bonsoir, qui va changer le cours de ta vie. Je ne sais pas si tu as la chance de ça.
Mais bien sûr, je suis là pour ça. Non, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup et merci Carole que je connais effectivement ouais, personnellement.
Avec grand plaisir. Et on se demandait juste une chose, tu as acheté combien d'étagères à Ikea pour mettre tous tes prix?
Dans mes bureaux, près de chez mes parents. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. On les a pas tous, malheureusement. On les a pas tous parce que souvent, il faut se déplacer aussi à l'étranger pour qu'ils nous donnent la statuette. Sinon, il faut la payer et ils te l'envoient par la poste. Donc, du coup, ça fait un budget.
Eh ben, je me doute. Alors, justement, pour te faire un peu plus découvrir, on a eu toute une série de questions et c'est mon copain Hassen qui s'y colle.
Bonsoir, Emmanuel. Une petite question rapide. Comment on devient Emmanuel Frisero?
Waouh!
Mais vraiment, tu vois, à quel moment tu t'es dit, j'y vais, je me lance et je me consacre à mes projets de cinéma?
En fait, je crois que ça s'est fait complètement naturellement. Je me suis jamais posé la question. Comme le disait tout à l'heure Carole, à l'âge de 8 ans, je prends la caméra de mes parents et je commence à faire mes premiers petits courts-métrages, mes premiers petits films. Les acteurs à l'époque, c'est mon petit frère qui a 4 ans. Je le fais jouer les tueurs. Enfin, c'est n'importe quoi.
Il me semble que c'est une histoire de famille en plus.
Ouais, après, effectivement, par la suite, je vais m'associer avec mon frère, mon père et tout ça. Mais j'ai embarqué tout le monde dans mon délire et j'ai tout le temps tourner et réaliser des courts-métrages en fait avec les copains de l'école, du collège, je veux dire tous les gens qui me connaissent, ils sont tous passés une fois devant ma caméra. L'après-midi on séchait les cours, on jouait les mamans et
mais
on allait
ce soir.
Ouais, le sait. Et du coup je me suis amusé à faire des films toute ma vie, donc c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit bon ben qu'est-ce qu'on fait maintenant, on passe le bac, il fallait avoir le bac pour aller dans une école de cinéma. Donc du coup je me suis débrouillé pour avoir le bac et je suis parti à l'école de cinéma à l'ESRA à Nice notamment, ouais. et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça, mais j'ai toujours eu envie de faire ça et je me suis jamais vraiment posé la question finalement.
On sait bien que quand on fait un métier artistique, il y a vraiment beaucoup de candidats, très peu d'élus, et qu'il est difficile d'en vivre, surtout dans un premier temps. On aurait aimé savoir comment ton entourage a réagi quand tu as décidé de te lancer. Et est-ce que tu as été aidé ou tu as eu une main tendue par quelqu'un du milieu professionnel pour te développer?
Alors, ma famille, elle m'a toujours soutenu. Elle m'a vu grandir là-dedans, en fait, hein, au fur et à mesure des années, m'amuser et essayer de faire des courts-métrages, à l'époque, de plus en plus ambitieux, qui nécessitaient plus de moyens, plus d'argent. Donc, à l'époque, t'es jeune, t'as pas beaucoup de sous. Donc, voilà, tu te débrouilles avec la petite caméra des copains, le son. Très vite, j'ai eu de la chance aussi au collège. Je rencontre un de mes meilleurs amis qui, lui, à l'époque, fait du kung-fu. Et je lui dis, mais tu veux pas venir faire du kung-fu?
C'était pas Fonda, hein.
Non. Mais, pas
j'ai failli la faire, tu m'as pensé.
bien sûr.
Non, mais il a eu ce surnom-là. Ça lui fera pas plaisir, mais on l'appelait Kung Fu Panda.
On l'embrasse, si vous écoutez.
Voilà, on l'embrasse. Jean-François Maras, pour pas le citer, qui est à l'heure actuelle mon coordinateur des cascades. Voilà, donc en fait, au fur et à mesure des années, même dans la jeunesse, on savait pas, mais j'ai fait venir des gens avec moi dans mon délire. Et puis, voilà, je travaillais avec mon ami d'enfance qui est un de mes scénaristes attitrés. Je veux dire, je travaillais avec mon petit frère. Du coup, j'ai embarqué mon père aussi dans l'aventure avec qui on est associé. Donc finalement, j'ai toujours été super bien entouré. Et ça, c'est une force aussi d'avoir autant de gens aimants et qui te soutiennent dans une passion et dans quelque chose, dans un métier qui est vraiment pas simple, effectivement.
Ouais, bien sûr. De combien de personnes a été suivie ta série En Guerre ?
On est à plus de 50 000 personnes, à peu près. Ce qu'on sait, en tout cas sur les chiffres YouTube, parce qu'en fait cette série Nous sommes en guerre a été tournée en plein confinement avec la comédienne Stana Roumiak. Donc vraiment là, à l'époque, on a décidé d'en faire une web-série. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est confinée et qui vit le confinement comme tout le monde, mais qui au début,
en temps réel,
voilà. Et en fait, on tournait quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'on avait un épisode qui sortait chaque semaine le samedi matin sur YouTube. Au début, on est parti là-dessus. On s'est dit, on va faire le pilote. On va voir si ça marche. En fait, ça a commencé à marcher parce qu'à l'époque du premier confinement, il y avait strictement rien. C'est-à-dire qu'il y avait plus de télé, il y avait plus rien. Donc nous, on était des créateurs. Et du coup, on a commencé à faire cette série qui a eu cet engouement-là. Et dès le premier épisode, on s'est fait happer, on a vu que le public était là, on a eu de la presse nationale de partout qui a parlé de cette série.
Donc et ça nous a encouragé en fait à poursuivre dans les épisodes.
Je crois qu'on n'avait plus le choix en fait. C'est-à-dire que les gens disaient même plus s'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas, ils nous disaient à la semaine prochaine. Donc du moment où il y a
un rendez-vous qui est fixé.
Par contre, c'était beaucoup de pression, c'est-à-dire qu'on avait une semaine pour tourner
avec très peu de moyens.
Et finalement, par la suite, on a eu de la chance, c'est qu'un an après, France Télévisions est tombée sur la série et a décidé de nous l'acheter. Et du coup, elle est passée sur les chaînes de France Télévisions, sur la plateforme France TV.
Ah,
donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais voilà, c'est des belles surprises de notre métier.
Oui, donc Carole tout à l'heure parlait de tes nombreux prix que tu as gagnés.
Oui.
Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement ?
Beaucoup de crédibilité, parce que le monde du court-métrage rapporte pas grand-chose financièrement, il faut le savoir, mais par contre c'est une vraie carte de visite. Et le fait d'avoir eu des prix comme ça dans le monde entier, parce qu'on a eu des prix à Houston, à Las Vegas, à New York, à Rome, je veux dire vraiment dans le monde entier, en Chine, à Pékin, je veux dire c'est incroyable, on a pu très souvent se déplacer en plus et voir d'autres cultures, voir d'autres gens, voir comment le business se passait. Les premières aventures qu'on a eues, le premier prix que j'ai eu de toute ma vie, c'est à Houston, et c'est dans un des plus grands festivals internationaux du monde indépendant, où t'as tous les plus grands réalisateurs qui sont passés par là, Spielberg, je veux dire George Lucas, Ridley Scott, Brian De Palma, enfin c'est incroyable. Et toi t'arrives derrière le petit Frenchie on te déballe le tapis rouge et tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi.
T'as dû être trop content.
C'était complètement fou. C'était le tout début. Je me suis dit, mais waouh. Et puis, les Américains, ils ont un truc vraiment sur le business. L'âge n'a pas d'importance. Le plus important, c'est si t'es bon, on peut faire des choses, en fait, quoi. Mmh. Et l'autre truc que j'ai surtout appris aux États-Unis, c'était que les gens me disaient pas combien ça coûte ton truc, mais combien ça peut me rapporter. Ah, et oui. Ça, rien que ça, moi c'est une phrase qui a fait totalement écho depuis, et je me suis dit mais oui c'est ça, c'est il faut avoir
ça a changé
la vision complètement, ce mindset un peu différent à l'américaine en fait, quoi. Mais en plus je suis très inspiré par le cinéma américain, et Steven Spielberg, Indiana Jones, les films comme ça qui m'ont complètement bercé dans ma jeunesse et qui m'ont vraiment donné envie de faire des films. Premier vrai court-métrage que je fais, mon premier court-métrage de toute ma vie, c'est un remake de Indiana Jones. Donc déjà, je suis déjà dans un truc américain sans vraiment le savoir, sans savoir ce que je fais, et en me disant, on va continuer. En tout cas, je m'éclate et je vais continuer dans cette voie-là.
Grâce à ces prix-là, est-ce que c'est plus facile pour toi aujourd'hui de monter un nouveau projet ou pas ? ça aide.
Ça aide fortement. J'ai rencontré beaucoup de partenaires avec qui je travaille aujourd'hui, notamment mon producteur, Marc Antona. Je l'ai rencontré au Festival de Cannes et juste derrière ça, on avait eu la chance d'être sélectionné au Champs-Élysées Film Festival de Paris, qui est un très grand festival. Et je fais un rendez-vous avec lui à l'époque, juste avant la cérémonie de clôture de remise des prix, et il me dit: je suis sûr que tu vas la voir. Et il me dit: si tu l'as, je pense qu'on va faire des affaires ensemble. Wow. Et finalement...
Bon, si tu nous en parles,
voilà,
c'est que tu l'as
finalement,
eu.
Finalement, c'est que je l'ai eu. On a eu le prix du public du Champs-Élysées Film Festival et c'était incroyable sur Paris, sur les Champs. Ça a été une soirée incroyable où il y avait vraiment tout le show business parisien qui était là. Et ce qui est très marrant pour la petite anecdote, c'est que on s'est fait refouler à l'entrée. Ils voulaient pas qu'on rentre parce qu'ils trouvaient plus nos invitations. Ils disaient: mais vous êtes pas sur la liste. J'ai dit: non, mais je suis sûr que je suis sur la liste. On m'a appelé tout à l'heure pour être sûr que je sois là. C'est-à-dire qu'ils prévoient le truc quand même, quoi. Vous serez combien? Est-ce que vous serez là? Bon, moi j'ai rien vu arriver, hein, bien sûr. Et ça a été vraiment, en plus c'était un prix en France, à Paris, donc ça a eu vraiment écho sur la suite. C'est-à-dire que on avait eu pas mal de récompenses à l'étranger, c'était génial, c'était super, mais moi j'avais envie à un moment d'être reconnu un peu à la maison, et le fait d'avoir eu ça a pas mal changé la suite après. Ouais, là d'un coup j'avais plus de crédibilité, les gens avaient envie de savoir quels étaient mes projets,
et
les projets tout de suite c'était de monter des longs métrages, bien sûr, de passer à l'étape supérieure, et ça a beaucoup aidé, ouais, c'est clair.
On sait que tu es en train de préparer actuellement ton long métrage Le Padré, dans lequel tu as à nouveau la triple casquette de scénariste, réalisateur et producteur. On aimerait savoir comment ça s'articule tout ça.
C'est énormément de travail, c'est des années surtout. On a deux longs métrages en développement, pour être plus exact. On a donc Padré et on a un autre film qui s'appelle Marché Noir, qui est un polar, d'action. Voilà, on est vraiment, comme tout à l'heure on le disait, dans le thriller, dans le polar. Voilà, dans l'action, c'est vraiment le
américain.
Ouais, le côté américain, et puis ce qui me plaît, et je me suis jamais trop posé la question, mais c'est vraiment l'essence de mon cinéma depuis toujours. Après, je suis cinéphile, donc forcément, je regarde tous les genres, mais c'est celui-là qui me parle, et c'est comme ça que
c'est
comme ça que j'arrive à m'exprimer. Et du coup, effectivement, c'est des années de travail. C'est-à-dire que un film comme Marché Noir, par exemple, qu'on a écrit, réécrit, qu'on vient de réécrire, je veux dire, ça fait 14 ans que je suis dessus, par exemple.
Ah ouais, c'est énorme.
Et là, Padré, on rentre dans la sixième année.
D'accord.
Mais ça y est. Tout va bien.
Du coup, on a super envie que tu nous racontes un petit peu l'histoire.
Si, alors oui, on va en parler un peu, on va le pitcher un tout petit peu, mais je peux pas non plus en dire
le petit synopsis.
Synopsis. Alors, Padré, c'est l'histoire d'un séminariste qui fait ses études à Rome et qui a toujours voulu être prêtre. C'est ce qu'il a toujours voulu. Le jour de son ordination, quelques minutes avant, il est réquisitionné par le Vatican et on va lui attribuer une mission spéciale, secrète, où il va devoir infiltrer un réseau de combats clandestins pour sauver des enfants qui sont esclavagés de tout ce réseau. Donc, on va se rendre compte que là, la prière ne suffit pas et qu'il va falloir peut-être y aller un petit peu plus physiquement. Voilà, quelque chose qu'il avait jamais envisagé et prévu de toute sa vie. Ouais. Voilà. Donc, on est vraiment sur un film singulier, différent. On a un joli casting. Je peux pas le dévoiler ce soir, malheureusement, pour des raisons confidentielles, bien évidemment. Mais on a plein de partenaires qui...
que nous, hein, tu peux...
C'est pas comme si on était...
Ça reste quand même dans ton côté un peu comme le parrain, le côté italo-américain.
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Ben oui, il y a de la mafia, il y a des gangsters. On retrouve mon ADN là-dedans, mais avec un côté un petit peu plus spirituel, du coup, avec une partie du tournage à Rome aussi, et puis une grande partie du tournage sur la Côte d'Azur, bien évidemment, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'est-à-dire que à peine je suis sorti de l'école de cinéma, je me suis dit: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte à Paris ou est-ce que je reste ici et j'essaie de monter des projets ici? Parce que il y a de quoi faire. Il y a des techniciens, il y a des acteurs, il y a une lumière incroyable, et puis surtout il y a des décors formidables, et on a tout fait avec mes équipes pour pouvoir essayer, enfin en tout cas, de rester ici, ouais. Même si bien évidemment j'ai souvent une petite tête sur Paris. Mais tous les projets qu'on a actuellement, sur lesquels on travaille, que qu'ils soient en financement, en développement ou en écriture, on essaie vraiment de tous les baser ici sur la Côte d'Azur, parce que ça me ça me tient vraiment à cœur. Et voilà, et je pense que il faut qu'il y ait de plus en plus de créateurs. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être ça qui nous manque encore un petit peu ici sur la Côte d'Azur. C'est vraiment des créateurs. Quand je dis des créateurs, c'est des producteurs. Des gens qui vont produire des films de A à Z en étant azuréens. Et c'est la chose pas simple à faire, parce que malheureusement, l'argent et la plupart des décideurs sont parisiens. Mais en tout cas, si on peut nous amener des histoires ici, c'est aussi un de mes rêves et un de mes combats, c'est clair.
On n'avait pas précisé d'ailleurs que tu étais de Villeneuve-Loubet, donc c'est l'occasion de le dire.
Oui, tout à fait.
Comme tu parles d'Exactement. Est-ce qu'il y a une date de tournage prévue ?
Alors, je sais on aimerait, difficile de répondre. On aimerait, je dis on aimerait. J'ai eu encore mes producteurs cet après-midi, je leur ai dit automne. Cet automne, il faut qu'on
tu
tourne.
Tu leur as dit que tu venais de faire interviewer ici. Que
Bien sûr. Je leur ai dit que j'annoncerais des choses, mais pas tout. Donc non, on espère pouvoir tourner en automne. Voilà, on est en train de boucler petit à petit le budget. Voilà, tous les jours, il y a des bonnes nouvelles. Là, c'est la nouvelle année, donc on espère qu'il va y en avoir encore des plus belles. Et voilà, c'est vrai que le plus dur à un moment, pour passer en fait du court-métrage au long-métrage, dont on discutait tout à l'heure avec Hassen en privé, c'est l'argent, c'est le financement. Mmh. Et le financement, dès qu'on veut commencer à avoir des ambitions un petit peu grandes, ou pas d'ailleurs, parce qu'un film français, ça coûte très cher, même si c'est 4 personnes autour d'une table, ça coûte beaucoup d'argent en fait, on se rend pas compte. Et moi, je suis dans un genre avec de l'action, avec des combats, des fusillades. Ça demande des effets spéciaux, aussi bien plateau que des effets visuels. Donc, c'est énormément de répétitions, d'entraînement et de budget, en fait, quoi, tout simplement.
Alors, toi qui es réalisateur et qui dois certainement réaliser que c'était la meilleure interview de ta carrière, hein,
c'est certain.
Et que si jamais un jour tu dois fouler les scènes des Césars.
Ça s'appelle le comique de répétition,
juste,
ça.
Tu pourras parler de nous, d'accord.
Ouais, parce qu'on est un peu lourd, en fait, on aime bien. Et en fait, ben, si tu peux, ce jour-là, aller sur scène et remercier les copains d'abord d'Agora Côte d'Azur, parce que c'est quand même vraiment le plus important de ta vie.
Mais c'est sûr, ce sera...
Merci pour cette franchise, Emmanuel, qui nous touche.
Vous serez les premiers sur la liste.
Ah, c'est gentil.
Ça, on ne sera pas comme toi, Marie, quand on n'aura pas le carton d'invitation.
Mais en tout cas, merci. Hein. Merci à vous.
Merci à toi, Emmanuel.
C'est un plaisir. On va te suivre de près, c'est promis.
Eh bien, c'est super. Merci beaucoup.
Emmanuel, au plaisir, à bientôt.
Avant de retrouver mon instant décalé, on écoute tout de suite le groupe écossais Texas avec l'excellent titre The Conversation. À tout de suite, les amis.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur. I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. There was you here in your head. We'll never say the heart you break. You mistake for me instead. For me instead. How they're hurting you, what they're deserting you. It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. They're hurting you, what they're deserting you. It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Ce soir, dans Les Copains d'abord, Thierry dans L'Instant Décalé.
Mon cher Thierry, pour ta première chronique de l'année et pour entériner définitivement 2023, oui. Je crois savoir que tu souhaitais revenir rapidement sur ces derniers jours de décembre et sur le folklore qui entoure les fêtes de Noël.
Quelle voix sensuelle, mon ami Hassan.
C'est sexy, complètement.
Merci. Effectivement, mon ami Hassan, au revoir 2023, bonjour 2024. Et force est de constater qu'on est tous là, qu'on a survécu à tout, aux fêtes de fin d'année, aux glucoses, aux comas éthyliques. Et surtout au folklore de Noël, devant lequel on a tous capitulé, face à la pression sociale où chaque adulte est obligé de retrouver son âme d'enfant, ce qui nous a amené à devoir nous émerveiller une nouvelle fois devant cette histoire, à dormir debout du petit Jésus qui est né dans la banlieue de Nazareth, l'équivalent un petit peu du périph' à Paris, donc d'un papa qui n'est pas tout à fait son papa, et d'une maman qui est tombée enceinte par le simple fait du Saint-Esprit. Alors déjà, là, permettez-moi de vous dire que c'est un petit peu suspicieux l'histoire. Ensuite, du coup, t'as trois types branchés écologie et astronomie qui ont fait du covoiturage à dos de chameau, en suivant une étoile pour lui apporter des cadeaux, et nous, ça fait quand même plus de 2000 ans qu'on dit oui à tout ça. Je vous la fais courte ensuite. Le petit grandit, devient prédicateur et réalise une série de miracles. Il change l'eau en vin, redonne la vue à un aveugle, guérit un paralytique, marche sur l'eau. Bon, jusque-là, rien de foufou hein, non plus. Jusqu'à ce que Jésus trouve des compagnons répondant au prénom de Thomas, Matthieu, Pierre, Paul, Jacques et Jean, passé des meilleurs, dans une région où tout le monde s'appelle Aziz, Ibrahim, Hassan ou Abdoulaye. Et là, faut bien avouer que ça reste quand même son plus gros miracle à Jésus. Je vous encourage d'ailleurs à faire comme moi, à lui mettre un 5 étoiles dans un avis Google.
Il n'y manquera pas.
Ouais. Ensuite, des jaloux, le livre à Ponce Pilate, qui était préfet romain et maître SM à la fistinière. Il fait flageller Jésus et lui fait enfoncer une couronne d'épines sur la tête. Clou du spectacle, si j'ose dire, Jésus finit les bras en croix, comme le veut l'expression. Trois jours plus tard, Jésus disparaît de son tombeau et fait son comeback, qui lui inspira d'ailleurs l'écriture du fameux Baby Comeback, hein, sa plus célèbre chanson. Puis il réapparaît auprès d'une vingtaine de personnes avant de monter vers le ciel. Plus de 2000 ans qu'on le prie pour qu'il vienne nous sauver. A priori, grosse panne de réveil ou manque cruel d'intérêt pour nous ou pour la ponctualité. L'histoire ne le dit pas.
Mais le symbole du basculement d'une année sur l'autre reste bien évidemment, cher Thierry, le traditionnel déferlement des messages où tout le monde se souhaite une bonne année et personne n'y a pu échapper. Même toi.
Absolument, Hassan, le moment le plus relou de l'année reste effectivement les vœux que l'on se sent obligé d'envoyer, surtout quand on les a reçus, avec le texte référence « Bonne année et surtout la santé, car la santé... » Tout le monde connaît ça.
Mais
le pire du pire, c'est quand dans un moment d'égarement et de grande humanité, tu te dis « Tiens, bah, si j'envoyais pas un petit message de bonne année à Jean-Pierre, avec qui j'ai fait les 400 coups, et qu'en retour, tu reçois « Merci, mais t'es qui ?» Alors ce simple message, merci mais t'es qui, hein, qu'on a tous reçu ici,
un classique,
est un peu l'équivalence, on va pas se mentir, de va te faire cuire le cul, hein, et qui est clairement le texto qui te permet immédiatement de mesurer l'importance de la place que tu occupes dans la vie de Jean-Pierre, ce qui t'amène à te dire que tu es aussi utile à son existence qu'une paire de chaussettes ou de moufles pour Philippe Croizon.
Alors le mois de janvier, c'est aussi le mois des bonnes résolutions, n'est-ce pas David? Et je crois savoir que ce début d'année 2024, des membres de notre équipe ont déjà craqué.
Et oui, le mois de janvier, c'est les bonnes résolutions qui fleurissent aussi vite que l'acné sur les joues de nos adolescents. C'est l'envie de devenir la meilleure version de soi-même, surtout lorsqu'on a perdu toute dignité. Après avoir été retrouvé le soir du 31 décembre, la tête dans la cuvette des chiottes, le froc sur les chaussettes en chantant « Si tu vas à Rio ». Mais janvier, c'est aussi les salles de sport qui se remplissent plus vite que le livret A. Et le régime draconien que David, ici présent, notre camarade, comme beaucoup d'entre nous, ont commencé à s'imposer. Un régime à base de brocolis, de graines, d'air et d'eau, jusqu'à ce que l'on croise le regard provocateur d'une galette des rois, un petit salope, qu'on finira de toute façon par se taper et qu'on paiera trois fois son prix parce qu'on nous expliquera que la pâte feuilletée vient d'Ukraine et que la pâte d'amande est produite à Gaza.
Ça me fait penser à Jésus.
Absolument. Tu vois, il y a un fil conducteur, c'est Jésus dans cette chronique. Et justement, à ce propos, avant de rentrer dans le studio, tout à l'heure, David m'a confié un peu plus tôt qu'il était déjà au bord de la famine après 8 jours de régime.
En fait, vous parlez beaucoup.
C'est une tristesse tout ça. Et que son instinct instinct de survie reprenait le dessus avec cette crainte de devenir une proie facile pour la faune locale.
Alors, bon,
je lui ai rappelé quand même qu'on faisait pas l'émission depuis les réserves du Botswana, hein, et quand même qu'il y a quand même très peu de chance, hein, qu'on se fasse dévorer par une bande de hyènes en sortant de l'émission. Résultat des courses, aucune volonté, on est parti se bouffer une galette des rois.
Tout le monde le sait, Thierry, l'année 2023 a été une année difficile.
Hein. Absolument, oui, je confirme.
Tu confirmes. Et là, je fais appel à l'intuitif, au visionnaire que tu es.
Mais tout à fait, Hassan. C'est tellement bien résumé.
Est-ce que tu sens bien les choses, Madame Irma, pour 2024?
Alors, je ne voudrais pas miner le moral de nos fidèles auditeurs, comme de notre invité ce soir, mais puisqu'une image vaut mille mots, 2024 sera un peu l'équivalent du confort que tu peux retrouver dans un toilette turc sans papier pour t'essuyer le sif sur la seule aire d'autoroute reliant Porte-la-Chapelle à Paris, à la commune d'Ablincourt-Pressoir, dont tout le monde ignorait l'existence jusqu'à ce soir, jusqu'à ses propres habitants, c'est vous dire quand même, hein. Alors, je sais, l'image est forte et parlante, surtout quand on a une bonne gastro, mais rien ne nous permet pour le moment de nous réjouir. La guerre est partout, Carglass a de nouvelles égéries télé qui n'ont toujours pas fait l'écho, Florent. Et dans la liste des personnalités préférées des Français, Emmanuel Macron se situe toujours entre Pierre Palmade et Guy Georges, hein, c'est vous dire si le monde va mal.
Très très mal même. Mais sans transition, et pour terminer cette belle chronique, revenons à une actualité people judiciaire. Avec l'affaire Gérard Depardieu qui ne cesse de faire grand bruit.
Absolument, et Gérard Depardieu ne fait pas que grand bruit après la digestion. Hein. Effectivement, à cette occasion, on a tous découvert avec stupéfaction il y a quelques semaines qu'on pouvait en apprendre davantage sur la mythiculture, hein, qui est l'élevage de moules, en écoutant Gérard Depardieu dans le magazine Complément d'enquête, que si on se visionnait tous ensemble l'intégralité des 37 saisons de Thalassa. Alors, depuis de nombreuses semaines, on a pu le constater, l'acteur a reçu un nombre considérable de soutiens du métier qui le décrivent comme un homme délicat, pudique et pudibon. Alors, ne riez pas. Hein. Donc, je rappelle pour tout le monde la définition du mot pudibon, qui a une pudeur exagérée, qui pousse à l'excès la retenue. Et là, c'est vrai qu'on a quand même tous reconnu notre Gérard Depardieu.
Hein. Effectivement, ouais.
On va se remettre tout de suite en tête plutôt qu'en bouche, hein. C'est préférable, l'une de ses déclarations avec la phrase « J'ai une poutre dans le caleçon ». Voilà, c'était la phrase de Gérard.
Hassan, il a dit la même chose.
Qui confirme ce petit introverti, ce petit côté introverti et délicat, hein, qui le caractérise si bien. Alors, que peut-on souhaiter à Gérard Depardieu, si ce n'est peut-être un bon dry January, qui est, je le rappelle, l'abstinence totale d'alcool sur le mois de janvier, qui lui permettra très certainement de dire moins de conneries. C'est la fin de l'instant décalé. Bon dry January à tous et merci de m'avoir écouté.
Merci.
Bravo Thierry. Merci pour ce travail magnifique.
Magique. Ce moment délicieux, voilà.
Magique.
Je te lance les mots.
Ouais, magique. On se retrouve dans un instant avec les insolites du monde, avec notre chère Laura, après le groupe Keane.
A tout de suite les amis.
A tout de suite.
Ce soir, vous écoutez les copains d'abord sur Agora Côte d'Azur. Disappear, fading into beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay. Stay awake and remember my name. But everybody's changing and I don't feel the stay awake and remember my name. But everybody's changing and I don't feel the same. Oh, everybody's changing and I don't feel the same. ce soir. Dans Les Copains d'abord. Laura dans Les Insolites du Monde et des réseaux sociaux.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition des Insolites du Monde et des réseaux sociaux. Les fêtes fraîchement passées, un petit clin d'œil à la capitale de Noël pour démarrer aujourd'hui. Vous l'aurez compris, c'est à Strasbourg qu'on commence le voyage. Une jeune femme en manque d'énergie y a trouvé la solution pour recharger les batteries.
On a hâte de découvrir tout ça.
Âme sensible, s'abstenir. Et bien entendu, ce petit remontant est à ne surtout pas reproduire chez soi. Revenons à notre jeune femme qui, usée par ses journées difficiles, a tout simplement confondu ses entrailles avec une frangipane en s'y introduisant une pile.
On a toujours des chroniques qui sont quand même très très orientées.
Juste question, Laura, combien de volts?
Comment?
Combien de volts?
L'histoire ne me dit pas,
c'est ça. Souhaitons donc à la reine de l'épiphanie de rapidement retrouver sa fève.
Une chronique familiale, hein, je me rappelle.
Elle est dans le thème. J'ai envie de dire comme quoi, entre Duracell et Marc Dorcel, il n'y a qu'un pas.
C'est vraiment très très chaud cette émission quand même.
On va diffuser à minuit.
T'es pas obligé de te dézapper tout de suite, Emmanuel.
Poursuivons avec le concert le plus inattendu du siècle, même pour l'artiste d'ailleurs. Des amateurs du rappeur Jul par ici. Ouais.
Ah, Emmanuel. Voilà.
Bah, il a assumé, mais pas trop non plus.
C'est un tout petit geste
quand tout le monde se regardait.
Eh bien, figurez-vous qu'une bande de fans marseillais n'a pas manqué l'information du concert qu'il s'apprêtait à donner dans une toute petite salle suédoise pour la modique somme de 5 euros. Ni une, ni deux, la salle fut prise d'assaut par une horde d'amateurs de vocabulaire fleuri. Mais quelle ne fut la déception générale au lever de rideau. Ah oui, j'allais oublier l'essentiel. L'événement avait été intitulé, et pardon si j'écorche les mots, Jul or cool. Alors, non, il n'est pas question pour Jul d'être cool. Mais retenez bien ceci, Jul signifie Noël en suédois. Bim.
Oh, la méprise.
Et là, c'est le drame.
Tout Marseille était chez Ikea.
Ma foi, France-Suède, pour entendre des cantiques sur la nativité, pourquoi pas. Pour contrer la déception de cette anecdote, un petit clin d'œil à cet Anglais que rien n'effraie. Il vient d'obtenir son code de la route après 59 tentatives consécutives. La théorie est intégrée, bravo. Reste plus que la pratique, on y croit.
On l'embrasse, il nous écoute, évidemment. Ouais,
on l'embrasse. Plus c'est long, plus c'est bon, comme dirait l'autre. On va enchaîner. Avec un coiffeur italien de 55 ans, ce brave gaillard a été arrêté par la police pour trafic de stupéfiants. Alors, en effet, là, rien n'est drôle. Ce qu'il est un peu plus, c'est ce qui a encouragé les forces de l'ordre à s'intéresser à lui.
Ouais, c'est quoi la suite?
Notre cher capilliculteur coiffait tout simplement beaucoup trop de personnes chauves. C'est difficile d'argumenter une telle stratégie commerciale. D'autres vaillants soldats se trouvent bien plus aguerris en matière de stratégie, comme cet homme, entrepreneur dans la construction immobilière, en instance de divorce. Conscient de ses droits en cas de rupture de contrat de mariage à l'amiable, il a su trouver la solution la plus équitable qui soit en sectionnant tout simplement la portion de sa maison qui lui revenait de droit. L'avantage, c'est que le foyer est bien ventilé, mais à la revente, pas sûr que l'argument mette tout le monde d'accord. À présent, parlons de cet homme un peu trop généreux qui s'est vu subir une expérience plutôt mémorable. L'histoire se passe aux États-Unis à l'occasion d'une cérémonie de mariage. Alors que la mariée s'apprête à rejoindre son futur époux devant l'hôtel, elle apprend par retransmission de SMS anonyme l'infidélité de son cher étendre. Mais loin de se laisser démonter, la belle parcourt l'allée, toute de blanc vêtue.
Le verbe était bien choisi.
Et décide simplement de dévoiler le contenu des échanges SMS torrides entre son fiancé et sa maîtresse devant toute l'assemblée. L'arroseur arrosé, n'est-ce pas?
Gros moment de solitude.
Ouais, c'est chaud. Effectivement. Et pour enchaîner sur la thématique du mariage, partons au Brésil, où une jeune femme a trouvé l'amour de sa vie en la personne de Marcello. Ah, Marcello, ce bourreau des corps, des cœurs.
Peut-être des corps aussi, hein, s'il se débrouille bien. Ça a du sens. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème.
Pas contrariant, très à l'écoute, calme et discret, Marcello a décidément toutes les qualités requises auprès de la gente féminine. Mais qui est, me direz-vous, ce merveilleux vénard qu'est Marcello? Eh bien, il n'est autre qu'une poupée de chiffon conçue par la maman de la mariée.
Ah d'accord.
Ouais.
Ah
ouais. Ouais, car en effet, les tourtereaux ont officiellement acté leur union. La question du consentement n'aurait jamais autant résonné, me souffle-t-on dans l'oreillette. Terminons notre périple au pays du soleil levant. tandis qu'il réchauffait son âme dans les bras chaleureux de Morphée, au sein même de son véhicule, Tatsuo, un jeune japonais de 22 ans, a subi une agression des plus terribles. Un affreux moustique, affamé et déterminé, a en effet pris le jeune homme pour cible, le tirant de son sommeil profond. Tatsuo eut une idée lumineuse, vider l'entièreté d'une bombe insecticide autour de sa maison, devant laquelle son véhicule était stationné.
Ouais.
Lorsqu'il constata sa victoire face au cruel maringouin, Tatsuo festoya en s'allumant une cigarette.
Okay.
Suite de l'épisode. Une maison qui prend feu, emportant avec elle la sépulture de l'abominable suceur de sang. Mon frère David vous dira que de cette anecdote naquit le plus gros tube de Johnny Hallyday. Ouais.
Tu as fini avec ta chronique ?
Ça y est.
Merci
c'est bon.
Beaucoup, Laura. Merci. C'était super. Et toi aussi, tu nous as fait voyager. Tu vois, il n'y a pas que Emmanuel qui nous fait voyager dans cette émission. Merci beaucoup, Laura. Donc, juste avant de retrouver le jeu que tout le monde attend, le jeu de qui a dit quoi, où toute l'équipe va pouvoir jouer, tout comme vous à la maison, on écoute Andreas Johnson avec Glorious pour nous donner la pêche.
Je peux jouer
suite.
Tout seul, s'il vous plaît.
À tout de suite. Non, tu joues pas.
Ce soir. Vous écoutez Les Copains d'Abord sur Agora Côte d'Azur.
Here she comes like a brand new day. Belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway. To her rhythm I'll go as groom with grace.
Les copains d'abord. On joue avec le Kikadiquois.
Vous êtes toujours en train d'écouter l'émission Les copains d'abord et on va maintenant jouer au Kikadiquois. Le Kikadiquois, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous distribuer des citations de célébrités en vous balançant quelques indices au fur et à mesure. Vous allez devoir trouver les auteurs. Alors attention, des petites phrases issues de textes de chansons vont également se glisser dans cette liste et il vous faudra évidemment en trouver le titre. Pour le clin d'œil à notre invité, j'ai rajouté quelques répliques de films célèbres. Aïe, 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 le piège.
Emmanuel, tu te mets avec moi.
Alors, pas de pression sur nos invités. Hein. Alors, pour ce soir, j'ai décidé que David allait jouer avec Laura pour éviter de séparer les Hallyday. Et que par conséquent, Carole allait jouer avec Hassen. Je laisse donc à notre invité le choix de son équipe. Tout dépend en fait si tu veux gagner ou perdre.
Non, mais je vais aller avec mes compatriotes.
Ah, merci,
avec
merci.
Carole, ben, bien sûr.
Oui, évidemment,
merci,
Carole et Hassen. Allez, très bien. Belle mentalité, Emmanuel. Belle mentalité.
C'est 2024, ça.
Oui,
c'est 2024.
Tu pourras en revenir, Emmanuel.
Merci.
Alors, est-ce que tout le monde est bien concentré? À la maison, évidemment, vous pouvez jouer avec nous. Allez, c'est parti. Première question. Les emmerdes, c'est comme les cons, ça vole toujours en escadrille. C'est un homme politique qui a dit ça. Allez, allez, on distribue des noms. Ah.
C'est pas Chirac.
Si, c'est Chirac. Ouais. Un point pour Asel, qui permet quand même à Carole d'obtenir son premier point depuis le début des émissions. C'est magnifique.
Oh, ça commence fort.
Je ne veux plus jouer
Bravo.
Avec elle.
Moi, j'ai envie de rester avec toi.
Je pense que tu es l'élément fort de cette équipe. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième question. Parce que, alors, c'est une traduction d'un texte de chanson. Attention, il va falloir être finaux là-dessus. Wow. Parce que je suis méchant, viens, tu sais que je suis méchant.
Michael Jackson, bad.
Oui, bravo. C'est un deuxième point pour l'équipe Asel et Carole.
Ouais, c'est mon artiste préféré, je peux pas.
Bah, toi, sans le savoir, je t'ai fait plaisir.
Ouais, merci.
Encore Emmanuel qui donne un
alors les, la fratrie, la fratrie à l'idée ou à l'idée, je sais pas trop.
Mais je l'ai dit.
Il va falloir
je
se reprendre.
Je l'ai dit en même temps.
Et tu l'as pas dit assez fort.
Ah, c'est ça le problème.
Voilà. Troisième question. C'est une phrase de film célèbre. John, comment tu te sens? Et l'autre, il répond
Rambo.
Bien cuit. Rambo, bravo.
Premier point
pour David et Laura. Bravo. C'était bien, bien, bien joué.
Il fait de l'amour.
J'espère qu'à la maison, vous jouez aussi. Vous avez peut-être choisi même votre équipe, peut-être. Alors, quatrième question. C'est une citation, évidemment. Quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. Bravo.
Il est trop fort, Asel.
Oh là là, ce soir, c'est carton plein pour Asel, qui remporte encore un point pour son équipe. Alors, il y a pas de suspense, il n'y a pas de temps mort. Là, de suite, c'est des réponses.
Pas de temps mort,
je suis impressionné. Peut-être que j'aurais dû choisir des questions plus difficiles. Cinquième question, tout est encore possible pour l'autre équipe, évidemment. Alors, c'est un texte de chanson.
Ah, il y a une deuxième équipe ?
Écoutez-moi. Oui, quand même.
Ah, le chambreur.
La dernière fois, il ne branchait pas autant, peut-être. Hein, je ne sais pas. Si non, je crois
la dernière
pas,
fois,
hein.
Il a gagné qu'un point.
Alors, cinquième question. Et sa mémère, alors ? Et sa mémère ? Où elle est, la mémère à sa nounouche ?
Milza.
Elle était où, hein, sa mémère, qui donne le susu à la bouche ? Bravo! C'est
bravo,
Yuki. Le Yuka, c'est un arbre. C'est une plante décorative, mais le Yuki, ça ira.
C'est
Richard Gottener. Bravo. Sixième question. C'est une citation. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Un voleur, de temps en temps, ça se repose. C'est une réplique d'un célèbre acteur.
Non, Belmondo.
Hein, bravo, Belmondo.
Mais tu l'as imité.
Je l'ai imité.
Bravo.
Si quelqu'un le fait mieux que moi, surtout il faut pas qu'il gêne.
Juste pour te signaler que Carole est partie.
Oh non, elle reste. Hein.
Alors, au niveau des scores, on est à combien
En gain, tu restes.
Nous sommes à.
T'as qu'à besoin d'une calculette quand même.
On est à 4-2.
Parce que je suis inquiet là.
On est à 4-2 pour l'instant.
Elle a du talent, Laura, dans sa chronique, mais elle ne sait pas compter. C'est comme ça. En même temps, on ne joue pas aux chiffres aux lettres, donc ça tombe très bien.
Non, parce qu'en fait, elle n'a pas fait un tableau par équipe.
Vas-y,
elle a fait un tableau par personne.
J'ai détaillé les choses.
Ah oui. Je t'ai pas demandé un exposé.
Je joue au Rami.
On est à 4-2.
4-2, d'accord. Je ne demande pas pour qui, pour éviter de.
Ça ne peut pas être 4-2.
Non, parce qu'il y a
allez, restez concentrés, les amis, s'il vous plaît. Septième question. Passive, elle est pensive en négligé de soi.
C'est la Watt.
Bravo.
Oh non.
Bravo, une chanson de 87 de Caroline Love qui a fait toute sa carrière sur une chanson, ouais, comme beaucoup tout. Dans les années 80.
Ouais.
Donc là, il y a l'équipe des Hallyday qui revient hein, à un point, je crois.
Allez,
il reste deux questions.
C'est tendu, c'est
tendu.
Huitième, c'est tendu du string de ton côté. Alors, huitième question. Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager dans le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Une réplique de film, évidemment.
Retour vers le futur.
Bravo, David. David, du coup, qui permet à son équipe d'égaliser.
Aïe. Il m'a devancé, là. Je me suis dit, non, c'est pas ça.
C'était ça, Emmanuel.
La DeLorean.
Je vous rappelle, c'était quand même une question pour te faire plaisir.
Oui, mais bien sûr. Mais j'aime bien faire plaisir aux autres aussi.
Alors, cette pensée t'honore, Emmanuel. C'est maintenant l'heure de la neuvième question qui va nous permettre de partager les deux équipes. Tout le monde est tendu dans le studio, c'est un truc de malade. Alors, attention, et là, elle est facile, hein. Elle est vraiment à la portée de tout le monde, même de toi, Carole. Je te comprends.
Et c'est toi qui réponds, Carole.
Neuvième question. Donc c'est un texte de chanson. C'était pas des amis choisis.
Par Brassès.
Oui, avec
d'abord.
Bravo David. Et David qui remporte le point et qui coiffe vraiment à la dernière seconde l'autre équipe.
On était bien parti pour
constituer d'Emmanuel, Asset et Pierrot.
Avec Laura, nous sommes des diesels. Voilà.
Donc comme je dis toujours, gloire au vainqueur et honneur au vaincu. Voilà.
Bravo. Bravo.
Tu l'as pas vu la semaine dernière.
Si. Ah bon, tu devrais écouter l'émission.
J'adore ce jeu.
Donc on arrive au terme de cette émission. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu de plaisir à vous distraire. Je voudrais remercier évidemment notre invité de ce soir, Emmanuel Fricero. On te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci
et vraiment,
beaucoup.
On va te suivre mais de très près et tu reviendras pour nous raconter la suite avec grand plaisir.
On a tous rendez-vous au César déjà donc.
Bien sûr.
Au César, d'accord. Carrément. Là, il y a une pression totale. D'accord. Au cinéma déjà.
Au cinéma, très bien.
Je remercie évidemment l'équipe du Luberlu qui m'accompagne ce soir. Un petit mot rapide, vite fait, pour tout le monde.
Nous avons gagné, c'est la seule chose sur laquelle j'aimerais rebondir.
D'accord, ok. Quand tu te raccroches à si peu, finalement.
Je dirais que quand tu sers à rien, ben vivant le mois prochain.
D'accord. Merci, Carole, à scène.
Nous avons perdu, j'ai rien à dire. Okay.
David.
Nous sommes les meilleurs, comme d'habitude,
voilà. On vous embrasse très fort, hein.
Bye,
d'accord.
Bye.
On vous souhaite le meilleur et on se retrouve évidemment le mois prochain pour une toute nouvelle émission. Les copains d'abord, prenez bien soin de vous, on vous embrasse très fort. À bientôt.
C'était Les Copains d'abord, présenté par Thierry. Réalisé par Nancy Zottier pour Agora Côte d'Azur. Émission à retrouver en podcast sur agoracôtedazur.fr.